dans une phase historique comme la nôtre, où nombre d'écoles, alors je coupe ma phrase à peine commencée, pour dire que quand j'ai écrit cette phrase, je pensais plus particulièrement aux écoles d'art qu'aux écoles d'architecture, car je sais que dans les écoles d'architecture, vous allez voir, vous allez entendre la suite de la phrase dans un instant, il existe des laboratoires depuis déjà un nombre d'années relativement respectable. Voilà. Dans les écoles d'art, ce n'est pas la même chose, puisqu'elles sont poussées à en installer, disons, ou à s'articuler à des structures ou à des institutions qui, elles, ont de droit, enfin, des laboratoires. Bref, je reprends avec cette petite précision contextuelle pour dire que dans une phase historique comme la nôtre, donc, où nombre d'écoles s'enorgueillissent d'avoir mis en place en leur sein ce qu'on appelle des pôles recherche, qui sont d'ailleurs souvent désignés par un acronyme qui s'achève par la syllabe LAB, très, très bien portée. Dans cette phase historique, donc, encore où fleurissent les Fab Labs, il y aurait, je crois, quelque utilité à réfléchir au mot lui-même de laboratoire. Étymologiquement, avec ce mot de laboratoire, il n'est pas question de labeur, mais de labour, labourer. C'est-à-dire d'un travail qui n'est pas sans lien avec l'ensemencement. Il ne s'agit pas dans le labour, donc par translation dans le laboratoire, de procéder au semail même, à l'ensemencement lui-même, mais il s'agit de préparer une terre, de faire en quelque sorte terreau de cette terre. Tout ce jeu de langage, mais autorisé par l'histoire de la langue elle-même. L'usage du mot laboratoire n'est pas extrêmement ancien, fin Moyen-Âge, début Renaissance, mais quand on se met à l'employer, à ce moment-là, c'est pour désigner un lieu opératoire distinct de l'atelier, en ceci que l'atelier est moins un lieu de préparation qu'un lieu de réalisation. C'est un endroit, l'atelier, où on dispose des attelles et où donc on procède à des opérations de calage, d'attelage et d'articulation. Ainsi, le travail d'atelier tient-il, je dirais historiquement, mais d'abord étymologiquement, à la mécanique. C'est d'ailleurs en ce sens que Galilée s'intéresse aux ateliers de Venise, dans lesquels on prépare et effectue d'ailleurs, réalise la mise à l'eau de bateaux. Donc c'est en ce sens, lieu de calage, lieu d'attelle, etc., d'articulation, c'est en ce sens que Galilée s'intéresse aux ateliers au moment où il produit au XVIIe siècle son discours sur les sciences nouvelles. Il cherche, il le dit très explicitement au début du discours, à énoncer les lois de l'art, le mot est dans le texte, les lois de la technique en réalité, puisqu'à ce moment-là le mot latin, enfin d'origine latine, ars traduit le texte des Grecs. Il cherche à énoncer les lois de l'art ou de la technique des calages et des étayages auxquels on procédait non sans succès, mais sans connaître les raisons de ce succès dans les arsenaux vénitiens, donc au moment de la mise à l'eau des bateaux nouvellement construits. À la même époque, donc 17e, ou à peu près, le laboratoire, pour sa part, convient davantage à la désignation d'opérations chimiques qui, comme celle des pharmaciens par exemple, réalisent des transformations matérielles, pour ne pas dire des transsubstantiations. Le rapport avec le terreau dont je parlais il y a quelques instants n'est pas nul, puisque d'un terreau bien préparé et ensuite bien ensemencé peut à terme émerger, comme vous savez, une pousse qui, elle, n'est pas dans le premier état du terreau, hein, dans le premier état des choses. Donc cette pousse est quelque chose qui transsubstancie, si j'ose dire, le terreau lui-même. Quoi qu'il en soit de toutes ces considérations, Alors que l'atelier semble jouer d'abord avec les logiques de la transmission mécanique, le laboratoire, lui, s'inscrit au registre, je viens de dire le mot, de la transformation de quelques substances. Il y a donc, a priori, de l'un à l'autre, différence. Un laboratoire n'est pas un atelier. Qu'en est-il de cette différence aujourd'hui ? Ici ou là, dans l'institution même des écoles, alors je fais allusion à un élément parfaitement biographique qui ne vous intéresse pas, mais je vais quand même en parler, c'est qu'on m'a demandé au mois de septembre dernier, à la Haute École d'Art et Design de Genève, donc pas tout à fait n'importe où, de venir justement faire une conférence, une petite conférence sur la notion d'atelier. Et je me suis dit, tiens, voilà qui semble les intéresser, comme si le mot d'atelier revenait là même où il n'y a pas si longtemps, on se vantait de plutôt mettre en place des laboratoires. Hein. Donc, qu'est-ce qui est en train de se jouer là ? Bon. Donc c'est un petit peu ça que je travaille tant que j'y suis. Voilà. Donc ici ou là, donc plutôt là que, où je vous ai dit que peut-être ailleurs, allez savoir. Bon. Ici ou là, dans l'institution même donc, des écoles, on commence à trouver, à ma connaissance en tout cas, des esprits qui sont peut-être quelque peu revenus de la vogue des laboratoires dans les écoles d'art, voire peut-être, vous savez ça mieux que moi, je ne sais pas, des écoles d'architecture. À quoi pensent donc ces esprits-là, quelque peu revenus de l'injonction à faire labo, voilà, ou lab. Voilà. Certains de ceux-là parlent de nouveau, donc, je viens de vous le dire, d'atelier. Est-ce que c'est une position de repli ? Est-ce que c'est une position de retrait ? Oui, me semble-t-il, s'il s'agirait, de reprendre ce que certains auteurs ont fait de la notion d'atelier. Je pense en particulier, en disant ce que je suis en train de vous dire, à William Morris, qui déjà en son temps... Alors, pour moi, c'est une question, hein, le statut de William Morris dans l'histoire du design ou pas. Est-ce que, c'est un auteur absolument intéressant, respectable, mais la question intellectuelle, dans un premier temps, mais qui a en fait, je pense qu'il y a des enjeux, c'est de savoir si Morris appartient légitimement, si j'ose dire, à l'histoire du design ou pas. Et ça a beaucoup de conséquences, hein, sur l'idée qu'on peut se faire du design. Je pense qu'il y a des enjeux aussi, après, pour l'idée même d'architecture, en tout cas au XXe siècle. Bon. Alors, William Morris est un auteur chez qui il n'est pas rare de trouver le mot atelier, jamais, à ma connaissance, le mot laboratoire. Bon. Alors, quand on dit aujourd'hui, ou ceux que je connais qui disent aujourd'hui, il faut peut-être revenir un peu aux ateliers, est-ce qu'ils sont en train de faire revenir dans l'actualité, par exemple, plutôt le langage de Morris, que je vais y venir, parce que c'est mon sujet, naturellement, pour ce matin, que le langage de Gropius. Donc William Morris, pour sa part, en son temps, ne voyait pas dans l'atelier, vous voyez dans l'atelier non pas seulement le nom d'une organisation du travail antérieure aux usines de la société industrielle, il jugeait même, dans ses textes, cette organisation, l'atelier, moins dégradée que l'actuelle, celle qu'il avait sous les yeux, donc l'usine, hein, de la société industrielle. Il trouvait que l'atelier, c'était moins dégradé comme organisation du travail et moins dégradant par la même occasion. Et par la même, il proposait très paradoxalement, à mon sens, de faire avenir de tout un passé du travail. Est-ce qu'il est question aujourd'hui de répéter ce jugement ? Est-ce qu'il est question pour nous aujourd'hui d'une autre manière, mais quand même de nouveau, de faire avenir de tout un passé du travail ou de toute une organisation passée du travail. Le même Morris, donc, en tout cas, comme je viens de vous le dire, n'a rien dit des laboratoires. S'il doit s'agir de réfléchir aux limites de cette sorte d'institution qu'est un laboratoire, hein, réfléchir aux limites, si je parle latin, je dis définir. Donc définir une institution, c'est dire ses limites. S'il s'agit de définir cette sorte d'institution qu'on appelle laboratoire, c'est donc ailleurs que dans une source comme celle de Morris qu'il faut chercher. C'est ailleurs, c'est pour moi, une fois de plus, le Bauhaus. Sur la question que je ne fais pour l'instant que commencer à préciser, le Baos nous regarde encore, quand bien même ceux qui ont pour l'heure quelque influence sur la conduite des choses dont je parle ne sont pas disposés à tenir compte de cette influence. Alors je vais maintenant entrer dans le vif du sujet du jour. Je voudrais vous parler, en fait je ne vais plus faire que ça, lire un texte de Gropius, qui est l'un des premiers textes à ma connaissance, où très clairement le mot laboratoire est prononcé pour définir l'école, le Baos, et donner un sens à ce mot de laboratoire. C'est un texte que Gropius, semble-t-il, moi je ne suis pas historien, hein, mais je crois savoir qu'il a écrit ce texte en 1923, même s'il ne l'a publié qu'en 1925, et j'imagine qu'il a dû le prononcer d'une manière ou d'une autre, un moment ou l'autre, au sein du Baos, dans un moment relativement tournant hein, de cette histoire. Le texte est publié en français sous le titre « Principes de production du Baos ». Alors dans cet article, Gropius soutenait que, je cite, « les ateliers du Baos sont dans le fond des laboratoires ». Donc ça commence bien, si vous voulez, pour mon sujet, puisqu'il lit les deux mots. Hein. « Les ateliers du Baos sont dans le fond des laboratoires ». Gropius pense à ce moment-là ces laboratoires en raison, je le cite, « d'exigences économiques, techniques et formelles auxquelles il y a lieu, dit-il encore, de répondre. Cette réponse est censée justifier socialement, à l'extérieur pour ainsi dire, l'école qu'il est donc en train de diriger. Mais je crois qu'elle a aussi cette réponse, il y a lieu de répondre aux exigences économiques, techniques et formelles. Elle a aussi cette formule, un enjeu interne. Comme vous venez de l'entendre, puisque je viens de le lire, il y va dans le raisonnement de Gropius de quelque chose comme un savoir-répondre. Disons, puisque, je reprends sa formule, c'est dans le fond le même mot, qu'est en jeu une responsabilité. Hein, il faut répondre, c'est étymologiquement responsable, c'est qui répond. C'est celui qui répond de ses actes. Hein. Donc il faut fournir une réponse aux conditions techniques, économiques et formelles. Et donc c'est l'exercice, la réponse est elle-même l'exercice d'une responsabilité. Alors à quoi et en quel sens cette responsabilité répond-elle? Où est sa limite de pertinence? Bien sûr, je pose toutes ces questions en pensant à nous, et à ce genre de phrase qu'il nous arrive de prononcer lorsque nous disons, par exemple, que le design ou l'architecture ou l'urbanisme disposerait, au moins dans un certain nombre de cas, de, je nous cite, la solution. Alors, je propose que nous soyons plus nuancés. Corrigeons-nous un petit peu. La solution, c'est bien plus dire que une solution. Apporter la solution, c'est quand même très prétentieux. Apporter une solution, c'est déjà pas mal, mais c'est quand même beaucoup moins. Bon. Donc, est-ce que, j'ai entendu dire ça en tout cas, je ne parle pas pour les architectes, vous connaissez ça, ce milieu mieux que moi, mais disons pour le design, j'entends dire ça, le design c'est la solution. Enfin, voilà, ça me m'horripile, quoi. Bon, voilà, vous entendez. Hein, une solution c'est déjà à mon avis beaucoup. Voilà. Donc, ce que je veux dire, je vais reprendre mon texte dans une seconde, mais c'est que Gropius ne parle pas comme ça, il dit réponse. Hein. Ce qu'on fait au Baos, ce n'est pas la solution, ce n'est pas une solution, c'est une réponse. Et ça change tout parce que ça met la façon de penser les choses dans le registre d'une responsabilité et pas, encore une fois, d'une solution. Je peux très bien répondre d'un acte que j'aurais commis et qui serait erroné. Je reste responsable, bien que je n'ai pas donné dans ma conduite la solution aux problèmes humains. Donc, qui répond et même se trouve responsable de et dans sa réponse ne clôt pas nécessairement un problème, mais assume seulement dans ce problème le fait de faire quelque chose à quoi il tient. Comprendre la réponse dont parle Gropius, c'est donc d'une part repérer le problème auquel il est fait pour l'heure, dans ma lecture, implicitement référence, et d'autre part, dans ce problème, indiquer les éléments auxquels il est possible de tenir dans une école, au moins une école comme celle du Bauhaus. Hein, je ne sais pas si mon analyse est claire, bon, le responsable qui répond est quelqu'un qui tient à quelque chose, voilà, et qui dit « je tiens à ça, j'ai fait ce que j'ai fait parce que je tiens à ça bon. ». Et donc je suis en train de chercher, s'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une réponse, c'est Gropius qui le dit lui-même au Bauhaus, à quoi tient cette réponse, c'est-à-dire à quoi tient en l'occurrence Gropius, ou en l'occurrence le Bauhaus, ou en l'occurrence encore le laboratoire qu'est le Bauhaus. Commençons, je pense que c'est logique, donc quel est le problème et à quoi tient celui qui répond dans le problème? Commençons, il me semble que c'est logique, par le problème. Quel est le problème dont parle Gropius? Celui dont il parle dans son texte ne semble pas, à mon sens, engager, en tout cas dans son simple énoncer, le sort du monde entier. Non. Gropius est très circonscrit. Il concerne le problème pour lequel le Bauhaus serait une réponse. Je cite Gropius, « Le problème, c'est la relation la plus judicieuse possible entre la maison et le mobilier. » Point final. De quoi on s'occupe? Pas du monde entier, pas d'apporter une solution au problème du monde, seulement de traiter de manière responsable cette question circonscrite, quelle est la relation la plus judicieuse possible entre la maison et le mobilier. Au Bauhaus, dit Gropius, je le cite encore, on cherche à déterminer la forme de chaque objet d'après ses fonctions et ses contraintes naturelles, grâce à un travail systématique de recherche théorique et pratique dans les domaines de la forme, de la technique et de l'économie. Fin de citation. Je ne vais pas m'arrêter à la proposition que je trouve pourtant passionnante qui nous est faite au passage de penser que des objets techniques ou des artefacts peuvent avoir des contraintes naturelles. C'est un sujet passionnant, mais je ne peux pas tout faire. Après, vous allez me dire que je suis trop long et vous auriez raison. Hein, voilà. Je vais donc laisser ce sujet, en sachant que c'en est un, de côté. Je vais souligner plutôt ce qui concerne le champ possible dans la phrase de Gropius, de ce qu'il appelle lui-même une recherche théorique et pratique. Et cette recherche théorique et pratique, elle a pour champ, donc, je le cite de nouveau, je répète, les domaines de la forme, de la technique et de l'économie. La suite de l'article sur cette affaire, sur l'interprétation de ce point, me semble soutenir une double thèse. Alors premier élément de la thèse soutenue par Gropius dans l'article, je vais passer un petit peu de temps là-dessus, puis à un moment donné, je vais dire, deuxième élément, vous rappellerez que ça fait allusion à ce que je dis là tout de suite. Hein, entre-temps, un peu de temps aura passé. Alors, premier élément de la double thèse de Gropius sur les domaines de la technique, de l'économie et de la forme, Gropius propose de situer la recherche propre au Bauhaus à l'articulation donc des trois domaines qu'il nomme technique, économie et forme. Il le dit au moins trois fois dans ce court article. C'est dire en substance, me semble-t-il, que chacun de ces domaines peut bien avoir une spécificité disciplinaire et par conséquent donner un champ à chaque fois singulier à des spécialistes du champ. C'est-à-dire on peut être chercheur en économie, chercheur en technique, chercheur en matière de forme, mais c'est pas ça qui va l'intéresser pour définir son laboratoire, j'y viens. Mais je crois plutôt que la phrase, le fait qu'il répète à chaque fois conditions techniques, conditions économiques, conditions formelles, veut probablement plutôt dire, et ça, cette fois, c'est explicite, que s'il y a recherche et, en ce sens, laboratoire possible au Bauhaus, donc dans une école, disons, d'art, ce n'est pas pour s'inscrire dans tel ou tel de ces champs particuliers, hein, technique ou économie ou forme, ni pour donner à l'un ou à l'autre priorité dans le traitement des problèmes. Donc il n'y a pas de Il n'y a pas de problème plus important que d'autres ou de champ plus important que d'autres dans les trois qui viennent d'être nommés. Il s'agit plutôt de se tenir, le laboratoire du Baos, il s'agit plutôt qu'il se tienne dans ce que moi j'appellerais une zone foyer où les trois sont concernés à parité. Ou pour employer une autre métaphore, il s'agit justement de chercher le lieu de l'articulation ou du calage entre les trois, technique, économie, forme. C'est-à-dire, il s'agit d'écarter, pour commencer cette recherche singulière dont nous sommes en train de chercher la plus précise définition, il s'agit d'écarter, pour commencer cette recherche singulière, l'idée que la solution, si j'ose dire, pourrait être soit essentiellement technique, soit essentiellement économique, soit essentiellement formelle. Il s'agit de répondre d'une attitude, selon le mot que choisira bientôt Mohly. Et d'abord, il s'agit d'assumer cette attitude, attitude selon laquelle ni la technique, ni l'économie, ni la forme n'ont un rang prioritaire. L'enjeu, c'est de faire travailler ensemble ces trois considérants. Ainsi puis-je, pour ma part, comprendre que Gropius, qui, au début de son article, vante en quelque sorte les mérites du mot « laboratoire », tiennent malgré tout, au moment où il termine ce même article, à évoquer le lexique de l'atelier. Je sais bien que ça n'est pas la raison qu'il donne lui-même la plus explicitement dans le texte, il n'empêche, il me semble, que cette raison travaille tout son propos, et je vais y revenir. L'idée qu'il faut trouver l'articulation, le calage entre les trois domaines, et ce qui est, finalement, c'est un travail d'atelier, même si c'est pour le moment, sur le plan conceptuel, que je suis en train de définir ce travail de calage. C'est ça qu'il appelle quand même laboratoire, donc par rapport à mon introduction, il revient sur toute l'histoire de ces mots, puisqu'il les lie, en fait, du verbe « lier ». Auparavant, avant de revenir sur ce que je suis en train de vous dire, et puisque je parlais tout à l'heure donc de la double thèse qu'il y a dans l'article de Gropius, je vais vous donner le deuxième élément, me semble-t-il, de cette thèse, qui est peut-être un produit de ma lecture. Est-ce que c'est dit absolument comme je vais dire dans le texte? Bon, je le lis. C'est qu'en nommant constamment, comme il fait, les trois champs de la technique, de l'économie et de la forme, Gropius admet que l'économie n'a pas plus de raison que la forme à faire administration de la technique. Alors c'est une espèce de jeu de mots hyper savant que je suis en train de faire. Ça n'a l'air de rien, Mais bon, je sais qu'il y a extrêmement longtemps, les pères de l'Église chrétienne on traduit le mot grec oikonomikos, donc économie, soit par disposition, soit par administration. C'est notamment Agamben qui rappelle ça assez longuement. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça donne accès à une définition parfaitement pertinente de l'économie, à mon sens encore aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'économie? C'est une façon d'administrer la technique. Ou si vous voulez, c'est une façon, alors je vais dire possible en français, de disposer la technique ou d'en disposer, d'en avoir la disposition, d'avoir le droit d'en disposer et de la disposer effectivement. Donc par exemple, c'est très simple, l'économie ça commence comme ça, est-ce qu'on aligne les machines les unes après les autres dans un atelier ou est-ce qu'on les met face? Ça c'est une décision proprement économique. Bon. Donc je reviens à mon analyse, je pense que Gropius pense que l'économie n'a pas plus de raison que la forme à faire administration de la technique. Et j'insiste, il se peut qu'elle soit motivée dans cette attitude aussi bien par l'histoire que par l'état des choses hors du laboratoire de l'école, c'est-à-dire autour de nous, en effet, l'économie dispose de la technique. Bon. Mais dans l'école, dans le laboratoire, non. Voilà ce que je crois pense Gropius. Et peut-être nous. Pourquoi pas? Bon. Donc, il se peut que, en effet, l'économie soit motivée dans l'attitude de disposer de la technique par l'histoire et par l'état des choses hors de l'école, mais ce qu'il y a là de motifs et d'habitudes pesant en dehors de l'école comme laboratoire, non pas pour Gropius à y valoir et, en tout cas, ne font pas seule réponse. La seule façon de répondre de la technique n'est pas l'économie. Ainsi, la technique ne se résume-t-elle pas pour Gropius à l'emploi économique qui en est fait le plus souvent ? Je dirais même qu'il s'agit de libérer la technique de cet emploi dominant, et c'est où je retrouve cette fois littéralement la raison qu'a Gropius de forger à la fin de ce propos cette espèce d'oxymore singulier d'atelier-laboratoire. Alors de quoi s'agit-il en définitive ? Je cite « de se mettre sur la voie d'un rapprochement constant entre artisanat et industrie ». L'industrie, c'est assez clair dans le texte, n'est pas l'endroit où se trouve le genre de laboratoire que Gropius appelle de ses voeux. Mais sûrement, c'est un lieu où la technicité la plus récente est mise en œuvre et en fait, le plus souvent, assignée à un emploi de caractère économique. Il règne dans l'industrie sans partage, ou tant du moins à y régner sans partage, la façon économiquement sanctionné de procéder. Ben, peut-être qu'on pourrait appeler, je suis en train de proposer une définition de l'industrie, en tout cas, dans le contexte des textes de Gropius, consisterait à dire qu'est-ce que c'est qu'un milieu qu'on peut nommer, qu'on est fondé à nommer industrie, c'est un milieu qui autorise l'économie à disposer de la technique. Bon. Et de la technique la plus récente. Des poussées techniques les plus récentes. Qu'est-ce que c'est que l'industrie ? C'est un endroit dans lequel les dernières poussées techniques sont mises à disposition de l'économie. Je pense que Gropius pensait ça, même si littéralement, bien entendu, il ne le dit pas comme je dis. Je fais un travail, encore une fois, de lecteur. Bon. Donc, sûrement, l'industrie, telle que ce mot figure dans le texte de Gropius, on peut le comprendre comme étant un lieu, nommant un lieu où la technicité la plus récente est mise en œuvre et en fait assignée à un emploi. Si Gropius écrit ce qu'il écrit, c'est qu'il pense justement que pareille situation n'est pas irrémédiable. C'est-à-dire que la technique n'est pas vouée à être économiquement disposée et par conséquent son lieu d'exercice possible. Alors, exercice, je parle latin, ex arcere. Arcere, c'est le même verbe qui a donné aussi arcane, le secret, etc. Alors, exercice, c'est un mot qui a une très grande tradition dans l'histoire de la rhétorique, depuis Cicéron au moins, et puis ensuite dans la formation des artistes à la Renaissance, l'exercitatio, l'exercice, etc. Ce mot d'exercice m'intéresse beaucoup, je le prends littéralement donc, et je l'entends comme signifiant sortir du secret, ex arcere. Hein. Et donc il y a quelque chose qui est justement l'économie de la technique, l'industrie, ça consiste à mettre au secret la capacité des techniques à mettre au monde quelque chose qui n'y était pas déjà. Et l'exercice de la technique, on ne procède pas à l'exercice de la technique dans l'industrie. On procède à l'emploi de la technique. Mais dans l'école laboratoire, dans l'école laboratoire atelier, on ne va pas procéder à une économie de la technique, vous m'avez compris, mais à son exercice, c'est-à-dire à en faire sortir quelque chose qui autrement est tenu arcane, arcéré au secret. Dans le secret. Alors Gropius écrit ce qu'il écrit parce qu'il pense que la situation industrielle, si vous voulez, bon, de la technique n'est pas irrémédiable. L'industrie peut changer, écrit-il dans un texte contemporain de celui que je suis en train d'examiner avec vous, texte de 1924. Mais comment assume-t-il cette pensée ? L'industrie peut changer. De quelle façon en répond-il ? Pas comme Maurice, donc, que certes il ne cite pas dans les textes à ce moment-là, mais dont je ne serais pour ma part pas étonné de savoir, c'était d'ailleurs dans l'air du temps, qu'il en connaît le propos et qu'eux-mêmes, probablement, il y pense assez précisément dans la façon qu'il a, dans son propre texte, justement, d'amener à la fin la thématique de l'artisanat. Il ne cite pas Maurice, mais j'ai du mal à penser qu'il n'ait pas au moins des conversations sur le sujet et qui du coup lui fait utiliser un vocabulaire qui flirte avec Maurice, mais qui en fait ne dit pas la même chose. Plus exactement, si l'expression de Gropius emprunte quelques traits à celle de Maurice, elle en diverge d'abord si bien que l'ensemble prend une autre tournure ou une autre direction, celle qui conduisent précisément à proposer la notion de laboratoire. La phrase clé, dès lors, dans le texte est celle-ci, je la lis, je la cite, « Au Bauhaus, l'avis est que l'opposition entre industrie et artisanat se caractérise moins par la différence de l'outil que par la division du travail d'un côté, industrie, et par l'unité du travail de l'autre. » Donc ce n'est pas la différence de l'outil, c'est l'organisation du travail qui fait la différence. Fin de citation. Il ne faut pas qu'on comprenne que la première différence, donc la différence éventuelle d'outillage, serait toujours, tout le temps, une différence secondaire. Mais en l'occurrence, ce n'est pas cette différence qui marque la distinction, qui permet de fonder la distinction entre art et artisanat. La machinerie propre à l'industrie des temps industriels, dit en substance Gropius quelques lignes auparavant, celle que je viens de vous lire, a une particularité qu'il y a lieu de prendre en compte de telle sorte que puisse, dit-il, naître, ce qui par conséquent n'est pas encore né, puisque c'est à naître, et qu'est-ce qu'il faut faire naître ? Je le cite, « la nouvelle authenticité et la nouvelle beauté des produits ». Il s'agit donc bien de travailler avec la particularité de la machinerie en place dans les locaux industriels, sans en désespérer a priori, puisque d'elle peut naître une nouvelle authenticité et une nouvelle beauté. Il s'agit même, comme vous venez de l'entendre, d'authentifier la machinerie qui est employée dans les locaux industriels, hein, et qu'il faut plutôt que l'employé exercer, il s'agit d'authentifier ce qui peut avoir lieu là, qui n'a pas lieu là, mais qui pourrait avoir lieu, ça peut changer. Bon. Il s'agit d'authentifier, donc, manière de dire qu'en l'absence de la recherche dont le laboratoire Bauhaus est porteur, elle aura d'abord été toute cette technique inauthentiquement mise en œuvre. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire inauthentique ? Je dirais tordu. Voilà, qu'est-ce qu'on fait dans l'industrie livrée à l'économie ? On tord, on fait tort à la technique. On tord la technique, on la voile, comme on dit une roue voilée, vous voyez, côté un peu cycliste comme ça, hein, une roue tordue, voilée. Ça ne tourne pas rond, en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, un endroit où la technique est employée, économisée, etc., c'est un endroit où ça ne tourne pas rond. C'est voilé, la technique. C'est tordu. Voilà. C'est faussé. C'est mis à mal. Et c'est si bien tordu, voilé, faussé, mis à mal, que du coup, on ne voit pas ce que ça peut donner de beau. Et donc, le laboratoire va travailler de telle sorte à dévoiler, à défausser, si j'ose dire, à détordre, etc., etc., de sorte qu'on puisse authentifier et par conséquent voir ce que ça peut donner de beau, les mêmes techniques, même techniques d'époque. Rien dans tout cela, vous le comprenez bien, ne vient faire critique a priori des machines, ni sous ce nom des dernières poussées techniques en date. Tout suggère en revanche que pour Gropius, la technique d'époque n'est ni à raisonner définitivement, ni même à raisonnante. Même la machine, comme il accepte de dire, ce qui justement me fait penser formellement, mais formellement seulement à Maurice, parce que Maurice ne dit jamais les machines. Il dit la machine, comme si c'était toujours la même sorte de chose. Bon. Alors, Gropius dit dans son texte aussi la machine. C'est pourquoi je pense qu'il a Maurice en tête d'une manière ou d'une autre. Donc, même la machine, comme il accepte de dire, n'est pas absolument machinale, mais elle est diversement capable. C'est un paradoxe, pour les philosophes en tout cas, mais je pense pour plus que les philosophes, d'arriver à penser qu'une machine, c'est pas nécessairement machinale. C'est mécanique, mais pas machinale. Il y a une distinction, à mon avis, à faire, très difficile, j'en conviens, mais quand même, je pense qu'il faut essayer de la faire. Donc, si une machine, c'est pas absolument machinal, mais diversement capable, des orientations, des conduites, y sont possibles. Les unes parmi ses conduites seront ou sont plus authentiques et davantage propices à la beauté que les autres. On les trouvera, ces conduites plus authentiques et propices à la beauté, à la condition, voilà ce que dit Gropius, d'ouvrir des espaces de travail, les fameux laboratoires ou laboratoires-ateliers, dont le mot d'ordre, je reviens à la phrase clé de tout à l'heure, ne sera pas la division, mais l'unité du travail. C'est-à-dire, il faut ouvrir des espaces organisés, si le mot convient, sans la division du travail, qui est ce pourquoi l'économie est compétente. Donc, il dit l'unité du travail. Alors, c'est le seul mot sur lequel j'aurai, pour ma part, quant à Gropius ou à ses traducteurs, une réserve. Unité est un mot, moi, que je trouve problématique. Je vais vous dire très rapidement pourquoi. C'est un mot que je discuterai. Je préférerais trouver dans les textes de Gropius, là où il y a, en tout cas, par convention de traduction, unité, je préférerais trouver le mot union. Parce que union ne fait pas fusion dans l'un. Mais adopte au contraire une perspective de conjonction. On peut pas, pour qu'il y ait une union, il faut au moins qu'il y ait deux. Alors que l'unité, c'est la disparition du 2 ou du 3 ou du 4. Hein, bon. Donc unité, union, oui, parce que ça ne fait pas fusion dans l'un, ça adopte une perspective de conjonction et donc d'articulation. Autrement dit, ça se trouve plus propice à assumer la fameuse idée d'atelier qui est donc finalement clairement présente dans le propos terminal de Gropius. Alors, quoi qu'il en soit de cette affaire terminologique, unité, union, nous voilà, je l'espère, désormais munis d'une bien singulière définition du laboratoire. Dans l'esprit de Gropius, ce mot ne concerne pas la poussée de nouvelles techniques, mais la conduite et l'arrangement de celles par ailleurs déjà récemment accouchées, nées, sur lesquelles une économie a mis la main sans avoir pris le temps de les authentifier. Je vous la relis cette phrase-là, parce que elle me plaît. Donc voilà. Le mot laboratoire. Non, non, mais bon, je plaisante, mais c'est une affaire très sérieuse, hein, bien entendu. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que l'économie met la main sur les poussées techniques sans... C'est pas son affaire. C'est d'ailleurs, d'une certaine manière, compréhensible. C'est pas son affaire. Sans prendre le temps de les authentifier. Et c'est, on voit bien, ça se reproduit. C'est-à-dire que c'est avec ce qu'on appelle les dernières poussées, nouvelles technologies, etc. C'est évidemment ce qui est... Ça y est, ça s'est passé. L'économie a mis la main là-dessus. Et on ne sait pas authentiquement ce que c'est que les capacités au pluriel de ces technologies-là. Ouais, c'est bon. Donc c'est ça que disait ma phrase. Voyez. Donc je vous la relis puisque vous me l'avez demandé si gentiment. Dans l'esprit de Gropius, le mot laboratoire ne concerne pas la poussée de nouvelles techniques. Autrement dit, il ne s'agit pas. Je dis ça parce que j'ai une dent contre les gens qui nous obligent à innover. Voilà. Et innover, ça veut dire mettre du neuf. Je parle latin. Hein. C'est pas ça le laboratoire pour Gropius. Il s'agit pas d'innover, c'est-à-dire il s'agit pas de produire de nouvelles techniques ou de nouveaux objets ou de nouvelles poussées techniques. Donc le mot ne concerne pas la poussée de nouvelles techniques, mais la conduite ou l'arrangement de techniques déjà poussées, déjà là dans le monde, déjà nées, mais sur lesquelles seule l'économie a mis la main, sans donc avoir pris le temps d'authentifier ces poussées elles-mêmes, sans avoir pris le temps de les exercer au sens que je disais tout à l'heure, mais au contraire, en se donnant le temps de les employer. Je vais m'en tenir là pour ce matin, non sans vous signaler, juste pour conclure, qu'il ne me semble pas que l'opération de pareil laboratoire soit absolument anti-économique. C'est-à-dire dire qu'on va ouvrir des espaces de travail dans lesquels on va s'intéresser, faire l'expérience de tous les postes de travail que l'économie divise, qu'une même personne puisse les impliquer dans sa propre personnalité pour savoir de quoi il retourne, etc. quels sont les différents moments ou endroits à partir desquels on peut observer une opération technique, même machinale. Enfin, je veux dire, même de fait de machine. Donc, c'est-à-dire, les laboratoires ne sont pas des endroits dans lesquels doit ou peut ou est fondée à régner l'économie. Et elle règne déjà suffisamment en dehors. Mais dire ça, dire les laboratoires ne sont pas des endroits ouverts au règne de l'économie, ça n'est pas dire, c'est ça que je veux dire pour conclure, qu'il n'y ait pas de malentendu, que les laboratoires sont anti-économiques. Et ce n'est jamais ce que dit Gropius. Hein. Il dit, justement, il faut toujours avoir les trois techniques, économie, forme, en tête. Donc, l'opération du laboratoire auquel il pense n'est pas, me semble-t-il, une opération anti-économique. Non, elle travaille à un champ où l'économie... Alors, champ, je vais conclure, ça va être... parce que j'ai commencé par labour, donc voyez venir, je vais terminer sur... ouais, voilà. Donc, moi, j'ai cassé le suspense, mais bon... Non, donc, bref, le laboratoire... L'opération auquel le laboratoire est appelé à procéder travaille un champ où l'économie est déjà capable de travailler elle-même sans toutefois y penser complètement, puisqu'elle y pense à ce champ que économiquement, alors qu'il faut y penser aussi techniquement et formellement. Donc elle y travaille sans y penser complètement. C'est ça qu'il faut se dire, que l'économie n'est pas une pensée complète de la technique. Elle pense jamais, elle n'aura jamais pensé complètement à la technique. Elle manque même la pensée technique de la technique et la pensée formelle de la technique. Et le laboratoire auquel pense Gropius sera un lieu auquel on essaiera de penser plus complètement à la technique. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, anti-économiquement. C'est juste plus complètement. Donc elle travaille un champ, cette opération, où l'économie est capable de travailler, est déjà capable de travailler elle-même, mais sans y penser complètement. Je veux dire... sans prendre garde, par conséquent, à toute la fertilité possible du milieu. L'économie travaille toujours dans un milieu technique, mais sans prendre garde à toute la fertilité possible de ce milieu. En ce sens, et c'est ma phrase de conclusion, je peux bien dire qu'il doit être ce champ, en effet, dans le laboratoire labouré, parce qu'il n'y a peut-être que le laboratoire qui laboure vraiment les champs techniques. Moi, je pense que le trépied, le troisième pied, y était quand même. Ce n'était pas une matière d'enseignement, mais il y était quand même, il y était quand même au moins sur un double registre. D'abord parce que, comme je pense simplement en lisant les textes de Gropius, on peut le constater, le directeur y pensait. Qui est quand même pas rien dans l'affaire. Il y pensait, parce que tous les textes qu'il écrit sont quand même marqués par ça, et qu'il fallait bien qu'il aille trouver l'argent. Donc je pense que c'était quand même présent, d'une part, et d'autre part, vous avez montré tout à l'heure c'est pas un organigramme, disons, schéma circulaire du Bauhaus. Et dans les mots mêmes qui sont adoptés, et les situations techniques auxquelles il est fait référence, on ne peut pas ne pas penser que ces situations techniques ont par ailleurs, autour de l'école, un emploi économique. Donc c'est quand même présent. La question, c'est est-ce que ça aurait été une bonne idée de faire venir des professeurs d'économie? Alors moi, je pense que non, et qu'il ne faut d'ailleurs toujours pas le faire, si vous voulez que je vous donne mon avis sur aujourd'hui, parce qu'ils règnent suffisamment... Ils règnent suffisamment autour. De toute façon, ils sont présents par le fait qu'ils règnent autour. Voilà, c'est ça que je voulais vous répondre. Je ne suis pas historien. Je l'ai dit pour commencer. Je pense quand même, si je m'aventure un peu sur ce point, j'ai dit le texte est écrit en 23 et publié en 25. Je pense que c'est parce qu'il l'écrit en 23, parce que Iten s'en va, parce que Mohly arrive, parce que ça, justement il y a tout un tournant, qu'il a des soucis pour financer l'école aussi. Et donc en fait il adresse ça aux industriels, et d'ailleurs dans le texte, en tout cas dans la traduction française, il y a le mot prototype. Donc il est en train de fabriquer un argumentaire pour justifier, c'est pour ça que j'ai conclu en disant, attendez, ce qu'il dit c'est pas anti-économique. Il essaye de maintenir une certaine idée de l'école, tout en négociant, au sens banal du mot, avec les conditions économiques qui sont autour, et où il voit bien que pour que l'école continue, il faut dire aux industriels quelque chose. Et il leur dit ça. Et il leur dit ça. Bon, alors, c'est le tournant. Moi, bon, par ailleurs, mon livre, qui n'est pas de malentendu, est bien sous-titré que c'est une philosophie du Bauhaus et pas une étude historique du Bauhaus. J'essaye de penser, pour ce qui me concerne, le Bauhaus comme un ensemble où il n'y a pas des tournants, enfin il y a des tournants mais pas des ruptures, etc. Hein, donc voilà. Ça fait très longtemps que m'intéresse, encore une fois, pour des raisons philosophiques, l'opposition du ex de exercice au ind, endo de industrie. Hein, puisque endo veut dire de l'intérieur. Donc il y a quelque chose qui est. C'est pour ça que moi, dans mon livre sur le Bauhaus, je propose de dire que conceptuellement et depuis. Pas la nuit des temps, puisque industrie est un mot latin, mais disons depuis extrêmement longtemps, industrie a à voir avec, je fais un jeu de mots, la sécrétion. La sécrétion et la sécrétion. C'est-à-dire qu'il s'agit de sécréter quelque chose, endo, depuis un secret, de quelque chose qui est tenu au secret, donc secret industriel, on dirait aujourd'hui, et des choses comme ça. Et l'exercice, ça consiste à faire le contraire. C'est pour ça que si on dit le laboratoire est un lieu d'exercice de la technique, il ne peut pas être tenu au secret industriel. Mais c'est pour ça que dans mon propos, j'ai choisi plutôt l'étymologie radicale de laboratoire, c'est-à-dire le labour, pour éviter l'alchimie, etc. Voilà. Alors, ce genre de question, est-ce que vous pensez que, en fait, la question, est-ce que moi je pense ou est-ce que Gropius pense? Ou est-ce que je pense que Gropius pense? Alors, Gropius, d'après moi. Donc il dit, un an plus tard, l'industrie peut changer. Donc, je pense qu'il espère, lui, que quelque chose qui correspond à une organisation du travail, donc à une économie, ça peut changer. Ils disent, l'industrie peut changer, je pense que c'est ça que ça veut dire. Bon. Alors plus concrètement, à quoi est-ce qu'il peut éventuellement penser, dans le contexte tel que je le comprends de ces textes 23, 24, 25, peut-être que c'est... Il pense... j'interviens, bon, c'est ma lecture... Il y a peut-être à distinguer entre division du travail et division des opérations. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Division du travail, ça concerne les humains au travail. C'est ça que ça veut dire. Division du travail chez Marx, chez Maurice, ça veut dire les uns font que ça, les autres que ça, etc. Et personne ne sait quel est l'ensemble de l'opération, ni n'en a l'expérience de l'ensemble. Il est possible... à la fin du texte que j'ai lu ce matin ou commenté ce matin, que Gropius imagine qu'une mécanisation des opérations soit telle que ça soit finalement les machines qui soient les destinataires de la division du travail et plus les humains. Voilà. Alors peut-être qu'il rêvait. Hein. Après, sur le fond de la question, alors là, ça c'est moi qui réponds parce que je vois pas de texte de Gropius sur cette affaire. En tout cas, pas, j'en ai pas en mémoire là tout de suite. Est-ce qu'on peut, parce qu'il me semble, on se tutoie, enfin moi je te tutoie d'habitude, donc je continue. Hein. Il me semble que ta question sur la division du travail, est-ce qu'on peut imaginer une autre économie de la technique qui ne jouerait pas sur la division du travail? Alors, ça, Maurice disait, ben oui, ça a existé autrefois, Marx aussi, d'une autre manière. La question, c'est est-ce que ça peut réexister? Est-ce que c'est devant nous? C'était mon allusion tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire avenir du passé? Ou bien est-ce qu'il faut se dire que est devant nous quelque chose où on a, pourquoi on n'a pas d'expérience historique? De toute façon, alors c'est moi qui réponds, il me semble que cette question est une question politique. Et ce n'est pas la question du laboratoire. Le laboratoire n'a pas, le laboratoire tel que je le comprends dans le texte de Gropius, n'a pas vocation à répondre des questions politiques qui sont évidemment des questions pour lesquels il n'a pas la solution, pas une solution, et même ce n'est pas son champ, puisque, comme il a été dit, son champ est limité, c'est la relation entre la maison et son mobilier, point. Voilà. Tout laboratoire, la tâche du laboratoire n'est pas de se substituer au champ politique.